Donc, ce que nous ouvrons, c'est un moment et une période de travail sur quelques figures de femmes dans l'Ancien Testament. Alors, j'ai intitulé ça Des femmes qui luttent pour la promesse et pour la vie. J'ai aussi mis comme sous-titre Des aïeules de David aux aïeules de Jésus. Évidemment, ces femmes ne le savaient pas qu'elles seraient les aïeules de David ou de Jésus, mais nous l'apprenons. Et je vais commencer par vous plonger dans un tableau très violent. Très violent. Alors, pourquoi ça y est, ça ne marche pas. Ah zut, mon truc ne marche plus. Ça y est. Ah si, voilà, ça y est, c'est reparti. Alors, un tableau très violent. Un tableau d'une femme, Artemisia, peut-être certains connaissent, Gentileschi, des femmes peintres du début du XVIIe siècle, fille de peintre, et qui a été dans l'atelier où elle apprenait la peinture, violée par un de ses maîtres, un dénommé Tassi. Et quelques années après, devenue une peintre elle-même assurée, elle représente dans deux tableaux différents Judith, dont nous parlerons, tuant Holoferne, évidemment, elle sous les traits de Judith et son violeur sous les traits d'Holoferne, et elle n'y va pas de main morte. Voilà, on est dans la violence la plus pure. Alors, nous allons être dans un monde en grande partie violent, un monde en grande partie violent, parce que le monde l'est, parce que ces femmes que nous allons suivre apparaissent dans un monde patriarcal, il ne faut pas se faire d'illusions, même si on traduit maintenant de façon plus juste le récit de la Genèse, de Genèse 2, en disant qu'on ne tire pas Ève de la côte d'Adam, mais que elle est créée, elle est bâtie par Dieu à côté. Voilà, ils sont bâtis côte à côte. Le récit reste quand même très en faveur de l'homme. Et tous ces textes, je crois que sans exception, sont des textes écrits par des hommes et vus de leur point de vue. Et du coup, c'est d'autant plus remarquable de voir qu'il y a ces personnages de femmes qui crèvent un peu la toile et qui sont honorées, même si elles sont toujours honorées comme secondaires, elles sont quand même là parce que ce monde patriarcal est quand même travaillé par la mémoire d'une participation de femmes au projet de Dieu, qui est ce projet d'alliance et cette promesse de vie. Voilà. Ce sont quand même des femmes qui luttent pour la vie dans un monde violent, étant elles-mêmes souvent violentées et utilisant leurs propres armes, mais aussi les armes de la violence qui sont à leur disposition. Il y en a qui tuent sans complexe, notamment Judith, mais il y en a d'autres. Alors, au risque de, et c'est le problème, d'avoir l'air de faire un peu une énumération, et bien sûr, je vais faire une énumération, j'ai essayé de regrouper en quatre ou cinq groupes ces femmes importantes de la Bible. Il y en a d'autres. Je n'épuiserai absolument pas toutes les figures. J'ai pris celles qui me paraissaient les plus significatives, mais vous pouvez continuer à fouiller votre Bible à la recherche de femmes. Alors, dans un premier temps, Sarah et Agar, les matriarches, des femmes mères de peuples frères, puisque de peuples yahvistes, frères selon la promesse, mais qui restent des ennemis, irréconciliés, sinon irréconciliables. Ensuite, des femmes humiliées, Dina et Tamar, dans la Genèse. Tamar, brouillant toutes les pistes de la morale et de la façon de vivre, mais reconnue juste. Ensuite, des femmes qui tuent. Yaël, chantée par Déborah, et Judith. Ensuite, des femmes qui rusent, et parfois à la limite d'une grande ambiguïté pour sauver leur peuple, Rahab, Bethsabée, Esther. Et puis, en fait, la dernière, on terminera quand même par Ruth, qui est quand même un modèle parmi les autres de plus grande douceur, même si il y a aussi de la ruse chez Ruth. Voilà. Donc ça, c'est le programme. Je vais avancer. Et d'abord, entrer dans le livre de la Genèse, on va y rester un bon moment, avec Sarah et Agar, que vous connaissez. Je choisirai évidemment les seuls chapitres où elles apparaissent et je vais insister sur les relations mauvaises entre les deux femmes et sur la destinée de chacune. Donc Sarai plutôt, apparaît dans un contexte de mort et de fin de vie, puisque la famille d'Abraham s'est réduite, son père est mort, ses oncles sont morts, il reste un neveu, et Abraham part pour un autre pays, part pour la terre où Dieu l'appelle, avec sa femme Sarai qui est stérile. stérile, donc quelque part blessée, et elle va être aussitôt, on le remarque pas assez, dès ce début de son histoire, au chapitre 12, après que Dieu a appelé Abraham, il va descendre en Égypte pour nourrir ses troupeaux, et là, Sarai va être véritablement manipulée par son mari et violentée par le pharaon. Pour ne pas avoir d'ennui et au fond pour sauver sa vie, Abraham demande à Sarai de se faire passer pour sa sœur, comme ça, comme le pharaon va mettre la main sur elle, lui, si c'est sa sœur, ne craint rien, si c'est sa femme, il serait évidemment supprimé. Donc, en gros, sans lui demander son avis, parce qu'elle ne répond pas, il l'envoie, finalement, il la vend au pharaon. Et on a une Sarai qui, quelque part, objectivement, est humiliée. Est-ce la raison pour laquelle elle réagit dans les chapitres suivants en souhaitant, au fond, entrer dans le projet de Dieu ou en souhaitant entrer dans son propre projet qui est celui d'une descendance? Elle dit qu'elle veut être construite en ayant un fils, et on a là pour la première fois un jeu de mots qui va être assez récurrent lorsqu'il s'agira d'une descendance, entre le verbe construire qui est celui bana, qui est celui avec lequel qu'on emploie pour Dieu qui construit Ève de la côte d'Adam, qui construit la femme aux côtés d'Adam, et le mot fils, ben, ben et bana, donc voilà, elle est construite par un fils. Elle utilise un moyen dont on a trouvé des traces, ça existe dans les annales et dans les textes assyriens, une femme de la bonne société stérile pouvait donner à son mari sa servante et adopter, elle, ensuite, le fils de la servante. Les textes assyriens disent que ce n'était pas si simple et que parfois la servante ou l'esclave revendiquait et qu'il y avait des tractations parfois difficiles. En tout cas, c'est bien ce que Sarai fait en présentant sa servante égyptienne Agar à Abraham. Et il y a une espèce de scène inverse au chapitre 16 à celle du chapitre 12, parce que Sarai, à son tour, manipule Abraham et manipule Agar. Il y a vraiment des relations qui sont au fond des relations de violence. Et puis, dès que Agar enceinte prend un peu de hauteur et la méprise un peu, Sarah jalouse la chasse. Or, ce qui est important, c'est qu'à ce moment-là, le texte bascule complètement du côté d'Agar. Et c'est Agar qui devient, au fond, le personnage principal de ce chapitre 16, comme elle sera le personnage principal du chapitre 21. Agar qui s'enfuit dans le désert et que l'ange de Dieu appelle, et on parle parfois d'une annonciation à Agar. Et Agar va recevoir de la part de l'ange de Dieu, finalement le messager de Dieu, une promesse qui est tout à fait parallèle à celle qui est faite à Abraham. Et là, il y a vraiment un parallélisme étonnant entre la proposition d'alliance et la promesse de Dieu à Abraham et la promesse de Dieu à Agar. Elle aura une descendance et ce sera un grand peuple. Et donc, pour le moment, elle peut rentrer tranquillement auprès de Sarai, qui, au fond, ne la bousculera pas plus. Alors, ensuite, je passe à grands pas au-dessus du chapitre 17 et du chapitre 18, qui est la promesse d'un fils à Abraham par deux fois. Sarah est bien présente au chapitre 18, mais vous savez qu'elle est au fond restée à l'intérieur de la tente et qu'on n'entend d'elle que son rire et le fait qu'elle est remise à sa place par le visiteur qui dit « Pourquoi Sarah a-t-elle ri ?» Ce rire qui est à la fois un rire d'incrédulité ou au contraire de bonheur, on ne saura pas. Mais on va assister au chapitre 20 à une espèce de réhabilitation de Sarah, avec un texte au chapitre 20 qui est parallèle à celui du chapitre 12. Il y a à chaque fois des textes parallèles qui sont probablement des ajustements de traditions différentes autour d'une même histoire. Et à nouveau, avec un roi du pays, Abraham ressent le besoin, à peur, il sent que sa femme est trop belle et ressent le besoin de demander à Sarah de se faire passer pour sa sœur. Le roi Abimélec est injuste, là Dieu intervient à temps, Sarah est sauvée, et non seulement sauvée, mais elle est comblée d'honneur et de bien par Abimélec. Donc il y a une réhabilitation de Sarah. Bon, malgré tout, on ne se refait pas. Chapitre 21, l'enfant de Agar a grandi, l'enfant de Sarah, Isaac, est né, l'enfant du rire, et Sarah à nouveau jalouse, va chasser Agar. Alors, le texte est un petit peu compliqué, surtout, comment dire, il est un peu incohérent parce que normalement, Ismaël a 13 ans et c'est difficile de dire à sa mère qu'elle parte en le portant sur son dos. C'est Ismaël de 13 ans. C'est quand même le cas. C'est quand même le cas. Elle part et à nouveau, alors qu'elle est dans le désert, désespérée, mourant de soif et ayant peur que son fils meure de soif, l'ange du Seigneur lui apparaît, Dieu la relève, lui donne à boire, elle est auprès du puits, se fait voir d'elle et promet de faire d'Ismaël un grand peuple. À côté d'Isaac, qui reste l'enfant du rire, le fils de la promesse, le père d'Israël, mais Ismaël, père des Arabes, de ces nomades arabes qui seront sans cesse en lutte avec tout le monde, le peuple le dit, hein, ils seront sans cesse en lutte avec tout le monde, bénéficient eux aussi de la promesse. C'est-à-dire qu'il faut de cette confrontation trop rapide de Sarah et d'Agar, garder l'affirmation qui est dite dans ces textes que la promesse, dont bien sûr Israël a la primeur avec la descendance d'Isaac, n'est pas pour autant, le texte l'affirme, réservée à Israël. Qu'au moins un autre peuple ou d'autres peuples peuvent bénéficier de la promesse, et c'est vrai, de ce peuple arabe descendant d'Ismaël. Ceci dit, les femmes restent non réconciliées et les peuples seront sans arrêt en lutte les uns avec les autres, mais ce sont l'un et l'autre des peuples frères parce que des peuples yavistes. Voilà, alors pour illustrer un peu ce que je viens de dire, la magnifique visitation ou annonciation au chapitre 16 probablement de l'ange de Dieu à Agar qui est une ravissante Agar qui est dans le désert et puis une représentation beaucoup plus réaliste d'une Sarah vieillissante et d'une Agar qui s'enfuit avec un fils qui est encore un peu trop petit mais on est davantage dans le texte de la Genèse. Voilà, donc un premier point, ces femmes qui sont des mères de peuple, de peuples dépositaires de la promesse et de peuples qui seront des peuples en conflit, comme elles ont été en conflit. Alors, j'avance dans le livre de la Genèse et je vais traiter de deux chapitres qui viennent interrompre l'histoire de Jacob et de ses fils. Puisque vous savez que la Genèse, en gros, on a Abraham, un petit flash sur Isaac, Jacob. Et enfin, complètement à part, l'histoire de Joseph, un des derniers fils de Jacob. Là, on est dans l'histoire de Jacob et de ses 12 fils. Et au chapitre 34, on ne parle plus guère de l'installation de Jacob, mais de sa fille Dina. Jacob est donc installé en Canaan. Il a 12 fils et une fille Dina. Et le chapitre 34 est le récit du viol de Dina par le fils d'un peuple voisin, le Sichémite, la ville s'appelle aussi Sichem, hein, le Sichémite qui s'appelle Sichem, fils d'un peuple voisin, qui au fond viole Dina, mais tombe amoureux de Dina. Et qui va être, et ça va donner lieu à un drame assez épouvantable. Alors c'est donc une affaire de viol. Une affaire de viol, il y en a beaucoup dans la Bible, hein, des affaires de viol et d'abus. Je ne vous raconte pas, vous irez le lire tout seul, l'épouvantable histoire de la concubine du Lévite à la fin du livre des Juges. On aura à peu près la même histoire que celle-ci avec la fille de David, qui s'appelle Tamar, dans le deuxième livre de Samuel. Voilà, il y en a de ces livres. Ici, l'affaire est complexe parce que on ne sait pas si au fond, l'évaluation des personnages est un peu laissée à la libre lecture du lecteur. Ça commence par Dina, dont on ne dira pas grand-chose, mais dont le narrateur nous dit d'abord, et on ne sait pas trop si c'est au fond positif ou négatif, que Dina, la fille que Léa avait enfantée à Jacob, sortait pour retrouver les filles du pays. Voilà, elle va rencontrer les filles cananéennes. Est-ce que c'est positif, une ouverture, au fond, aux jeunes filles semblables à elle autour d'elle, ou est-ce qu'on a déjà une espèce de jugement implicite porté sur Dina, elle va se mélanger avec des femmes ou des filles étrangères. Et ça va être la grande leçon du peuple, pas de femmes étrangères, et on ne donne pas ses filles à l'étranger. Tout le texte travaille sur une obligation de Deutéronome, je ne sais plus exactement, 7, hein, tu ne donneras pas ta fille à leur fils. Voilà, ne pas rencontrer l'étranger. Alors, Dina sort avec les jeunes filles du lieu, elle est vue par le prince Sichem, qui tombe immédiatement amoureux d'elle, mais c'est violent évidemment. Sichem, fils de Hamor le Hivite, le prince de ce pays, la vit, il la prit, coucha avec elle et la violenta. Et son être s'attacha à Dina, la fille de Jacob, et il aima la jeune fille et il parla à son cœur. Un vocabulaire qui est celui d'une rencontre amoureuse partagée. Donc bien sûr, il y a eu viol, mais Sichem est un homme honnête. Et le texte continue de la façon la plus honorable pour Sichem. Il envoie son père demander Dina en mariage à Jacob, qui hésitaille. Jacob est lamentable dans ce texte, comme sera lamentable David lorsque sa fille Tamar sera violée. Jacob hésite, attend le retour de ses fils, et les fils sont furieux, mais, nous dit le narrateur, non sans fraude, ils vont accepter sous condition que Dina soit épousée par Sichem. Et les conditions, ça va être que tous les Sichémites, hommes, se fassent circoncire. Donc cela accepte, c'est-à-dire qu'on a des étrangers, ce monde hostile, qui sont prêts finalement à passer sous les traditions, et déjà la tradition, alors le texte n'a pas été écrit à cette époque-là, hein, c'est une tradition de retour d'exil. La marque identitaire, c'est la circoncision. Et voilà, des étrangers qui acceptent de se faire circoncire. Or, ils se font circoncire, et alors qu'ils sont affaiblis, épuisés par l'opération, les frères de Dina, avec leurs troupes, leur tombent dessus et les massacrent tous. Et puis, ils mettent la ville en coupe réglée et récupèrent leur sœur. Chacun jugera comme il voudra. En tout cas, on peut quand même relever deux choses. C'est que Jacob ne s'attendrit absolument jamais sur sa fille, ne condamne à peine ses fils s'il a une petite remarque où il dit à ses fils « Vous m'avez porté malheur, vous m'avez rendu odieux aux habitants de ce pays, nous ne sommes qu'un petit nombre, ils vont s'unir contre moi et m'abattre, je risque d'être exterminé, moi et ma maison. » En gros, il a peur pour lui. Mais sa fille, il a complètement oublié. Et le massacre des autres, ce n'est pas grave. Derrière le texte, il y a cette affirmation, ce moment probablement du retour d'exil où on chasse les femmes étrangères, celles qui ont épousé les gens qui étaient restés sur place, au motif qu'elles ont souvent, avec elles, amené leur dieu. Et donc la peur de l'étranger et le réflexe identitaire est très fort. À ce moment-là, vous irez lire en parallèle au chapitre 34 de la Genèse, le chapitre de Néhémie 13, on ne lit pas souvent Néhémie, mais allez voir Néhémie 13, de la fin du chapitre, c'est « On demande à tous les gens du pays de chasser leurs femmes étrangères ». Et on voit bien qu'il n'y a pas seulement dans ce texte l'interdiction du Deutéronome, il y a vraiment probablement un remaniement du texte où, au fond, venger Dina, qui a été, alors là les mots sont très forts, violée, outragée, souillée, c'est purifier le peuple. Et donc finalement, le narrateur ou le dernier narrateur prend complètement fait et cause pour les fils de Jacob, qui se sont quand même conduits de façon épouvantable. Je remarque deux choses dans ce texte, qu'il y a deux silences qui sont assourdissants. Le silence de Dina, qui ne dit rien, et dont on ne dit plus rien, sinon qu'elle était sortie avec les filles du lieu et que Sichem l'aimait. Après, on ne sait pas. Et le silence de Dieu. C'est assez impressionnant. Si vous regardez le chapitre précédent, il se termine, le chapitre 33, sur le fait que Dieu, voilà, est en lien avec Jacob. Le chapitre suivant, le chapitre 35, reprend aussi le nom de Dieu et parle de ce qui va se passer pour Jacob, absent complet du chapitre 34. Autrement dit, c'est des affaires d'hommes, Dieu se tait, et la femme aussi. Dans le même ordre d'idées, mais cette fois-ci, la femme va agir, on a l'histoire de Tamar, deux chapitres plus loin. C'est intéressant que ça soit très tôt aussi. Alors, on est à la génération suivante. Déjà, on est passé d'Abraham deux générations après à Jacob. Et là, on est dans l'histoire d'un des fils de Jacob, Judas, considéré comme ancêtre de Jésus. Là, j'aime bien la représentation de Chagall, le tableau de Chagall, parce que Tamar est voilée et Tamar va agir de fait sous le voile. Et c'est comme ça qu'elle va, au fond, rétablir la justice en se cachant et donc en rusant. Alors, Tamar est la femme du fils aîné de Judas. On est dans le pays de Canaan. Judas a épousé une Cananéenne. Tamar est cananéenne, donc finalement, on en épousait largement des femmes du pays. Son nom, à Tamar, est un nom synonyme de fertilité. Au contraire, dans le début du récit, elle apporte pas, mais enfin, ses maris meurent à tour de rôle. Voilà, elle a deux maris qui meurent l'un après l'autre. Ce sont les fils de Judas. L'aînée, on ne sait pas pourquoi Dieu l'a fait mourir, c'est une des deux mentions de Dieu dans le chapitre. À ce moment-là, le second fils doit épouser Tamar et on fait jouer à ce moment-là, on le verra à une autre reprise avec Ruth, la loi du Lévira, qui est en Deutéronome 25. La loi du Lévira, c'est une loi qui veut que lorsque la femme du fils aîné, en tout cas, meurt, le frère suivant assure une descendance à son aîné en épousant la veuve et en lui donnant un enfant, ou elle lui donnera un enfant, je ne sais pas, en donnant naissance à un enfant qui ne sera pas son fils, qui sera le fils de son frère aîné. Donc c'était une loi qui en fait dépossédait le second fils de l'aîné qui devait naître, voilà, à la femme veuve de son fils. Donc c'est une loi qui peut nous surprendre, elle est dans l'Évangile, hein. Il y a la femme aux sept frères, aux sept maris, aux sept frères, dont Jésus va répondre. Mais on voit que ça joue ici. Le second fils, c'est Onan, qui a donné l'onanisme, puisque Onan, refusant de se prêter à cela, laisse tomber, dit le texte, sa semence à terre. Et alors Dieu le punit, il meurt aussi. Il y a un troisième fils. Mais Judas, qui lui considère que c'est Tamar qui est porteuse de mort, évidemment, veut protéger son troisième fils et renvoie Tamar chez sa mère, ce qui est assez intéressant. C'est une des rares fois dans la Bible où une chose pareille est dite. Renvoie donc Tamar chez sa mère et ne lui donne pas son fils. Et Tamar, alors, c'est comme Sarah, désir d'enfant, volonté d'assurer une descendance, volonté de, au fond, accomplir, participer à la promesse de Dieu. Tamar va, elle, se débrouiller par la ruse pour donner à Judas une descendance. Donc, elle se déguise en prostituée, elle se tient au carrefour, à la porte des eaux, et c'est intéressant cette porte des eaux que souvent les Bibles ne traduisent pas, donc on n'y voit rien du tout parce que c'est de l'hébreu, parce que qui c'est qui se tient à la porte des eaux dans la Bible? C'est au chapitre 8 des Proverbes, la sagesse. La sagesse qui parle à la porte des eaux et qui dit que parfois, pour assurer la justice, il faut savoir ruser. Eh bien, Tamar s'est rusée, elle se voile, se déguise en prostituée et évidemment, Judas passant par là, elle lui demande des gages avant de coucher avec lui. Au fond, il y a une transgression maximale, hein, parce que c'est la loi qui est transgressée et c'est la morale élémentaire. Il y a une affaire qui sera ensuite, dans la tradition juive, considérée comme inceste. Il y a un brouillage des générations. Elle couche avec son beau-père. On connaît l'histoire. Quand Judas apprend ensuite que sa belle-fille qu'il a éloignée est enceinte, il est furieux. Il veut la mettre à mort. Elle ramène les gages et elle le force à se reconnaître comme le père de l'enfant qui va naître ou des enfants qui vont naître parce qu'il y aura des jumeaux. À ce moment-là, c'est Judas lui-même qui reconnaît que cette femme a été plus juste que lui. Dans son esprit à lui, la justice, c'était d'observer la loi. Il n'a pas observé la loi du Lévira. Et Tamar, en elle, brouillant toutes les lois possibles et imaginables, et même, j'allais dire, la loi morale la plus élémentaire, a été juste. Voilà, une justice qui, au fond, comme celle de la sagesse, passe par la ruse et fait fi de la loi. Et la tradition s'appuie sur le texte pour magnifier la figure de Tamar, parce que le texte la présente d'abord comme une Tamar qui se déguise en prostituée, mais ensuite, on dit un peu plus bas, alors c'est Zona en hébreu, on dit un peu plus bas qu'elle est en fait une prostituée sacrée. Elle est Kodesha, elle est Kodesh, elle est sainte. Tamar, parce que, eh bien, elle accomplit ce qui est juste et qu'elle assure la descendance de Judas. Et elle fait tout cela sous un voile, avec finalement les yeux beaucoup plus ouverts que Judas, qui se repentira de son aveuglement. Voilà, vous lirez l'histoire de Tamar, c'est assez stupéfiant. Avançons dans ces femmes qui rusent et dans ces femmes qui vont même un petit peu plus loin. Puisque non seulement elle ruse, mais là, elle tue. Alors, deux femmes célèbres dans la Bible, la première l'est peut-être moins que la seconde, en tout cas, elle est beaucoup plus ancienne dans l'histoire et comme histoire, le récit lui-même est très, très ancien, c'est l'histoire de Yaël, qui n'est pas une femme israélite, mais qui est une femme de peuple environnant, femme d'un Kénite. C'est-à-dire au fond de quelqu'un dont on se méfie et qui peut faire partie des ennemis. Son histoire est racontée en deux chapitres successifs dans le livre des Juges, au chapitre 4 et au chapitre 5. Au chapitre 4, on a un récit assez circonstancié de la bataille, etc., et de l'action de Yaël, la façon dont elle, en tuant le général en chef des Cananéens qui attaquent, elle va permettre de sauver les tribus d'Israël. Mais le chapitre 5 est beaucoup plus intéressant parce que le chapitre 5, c'est le chant de guerre et de louange à Dieu parce qu'on est en train de gagner de la guerre de la prophétesse Déborah. Donc c'est une femme qui chante une autre femme, en fait. Déborah qui, dans un cantique, appelle les tribus d'Israël au combat. C'est un cantique très ancien parce que c'est un hébreu archaïque dans lequel les spécialistes hein, reconnaissent au fond probablement un des textes de la Bible les plus anciens, en tout cas qui remonte à une tradition mise orale, mise par écrit, dans un hébreu très archaïsant. Ça pourrait remonter peut-être certainement pas au XIe siècle, la tradition peut-être, mais enfin au IXe, Xe siècle. Alors, Déborah célèbre le Seigneur Dieu d'Israël, puisque c'est lui qui a mené à la victoire. Elle félicite les tribus qui sont venues à la rescousse pour se battre contre les Cananéens, et au contraire, elle se moque et méprise les tribus comme Éphraïm qui sont restées tranquillement dans leur coin sans venir se battre. Et puis, elle loue Yaël, béni soit parmi les femmes, Yaël, femme de Héber le Kénite. Je vous lis le texte, vous l'avez sous les yeux. Elle étendit la main vers le piquet et sa droite vers le marteau des travailleurs. Elle martela Sisera et lui écrasa la tête. Elle lui écrasa et transperça la tempe. Voilà, elle n'y est pas allée par quatre chemins, c'est horrible. Et c'est elle qu'on bénit et par qui est passée la victoire, qu'on attribue évidemment et dont on remercie le Seigneur, le Dieu d'Israël. Donc un texte qui est assez terrible, avec une finale qui, moi, me pose question. Parce que Déborah continue à chanter, et en chantant la victoire grâce de Yaël qui vient de tuer Sisera, elle évoque aussi la mère du guerrier, la mère de Sisera, qui, par la fenêtre, se penche. Elle se penche par la fenêtre, la mère de Sisera, à travers le grillage, et se demande pourquoi son char tarde-t-il à venir? Alors, est-ce qu'il y a là, au fond, une ironie méchante, parce que ben, voilà, son fils est mort, ou est-ce qu'il y a au contraire une sensibilité plus fine au fait que voilà, pendant qu'il y a une femme qui tue, il y en a une autre derrière la fenêtre qui se dit que son fils ne revient pas, peut-être, enfin, j'en sais rien. En tout cas, le texte se termine quand même sur un chant de triomphe, qu'ainsi périssent tous tes ennemis, Seigneur. Voilà, on fait endosser cela au Dieu d'Israël. Alors, je ne sais pas si Yaël a servi de modèle. En tout cas, on va retrouver dans un texte beaucoup plus récent, alors c'est probablement des derniers textes, enfin c'est Oui, il fait partie des derniers textes de la Bible, un texte écrit seulement en grec, le livre de Judith, avec ici la ravissante, je ne sais pas si elle est ravissante, mais enfin, Judith du Caravage, à la fois dégoûtée et accomplissant quand même ce qu'il faut pour se débarrasser du général Holoferne. Donc, c'est une introduction au livre de Judith. Le livre de Judith ne fait pas partie du canon de la Bible hébraïque. Donc, si vous avez une Bible protestante, vous n'y avez pas le, sauf la Tob, mais qui est une Bible œcuménique, vous n'aurez pas le livre de Judith. Alors, les raisons du fait que certains livres, qui sont des livres juifs, qui ont souvent, pas toujours, été écrits en grec, en fait, c'est souvent des traductions de textes hébreux qu'on a perdus. Pourquoi certains livres comme celui de Judith n'ont-ils pas été retenus dans le canon? Les raisons sont très compliquées. On dit beaucoup, c'est parce que c'est des livres grecs. C'est pas vrai. Et en plus, pendant au moins 3 siècles, ce livre a été lu parce qu'il n'y avait pas encore de canon des Écritures et transmis dans le judaïsme. Et il est encore lu aujourd'hui. Et Judith, ça signifie la juive, quand même. Voilà. Donc, c'est un livre que vous trouvez dans la Tob, dans les deutérocanoniques. Et que vous trouverez bien sûr dans les Bibles plus spécifiquement catholiques ou orthodoxes, puisqu'ils ont intégré tous les textes de la Septante dont Judith fait partie. Alors Judith, c'est une fiction historique, mais une vraie fiction qui mélange à plaisir les dates. Il ne faut pas essayer de trop s'y reconnaître. Dans Judith, c'est écrit tardivement, probablement sous les rois grecs, c'est-à-dire au tournant. Du deuxième, entre le troisième et le deuxième siècle avant Jésus-Christ, à un moment où les rois grecs commencent à persécuter les Juifs et à développer une forte politique d'hellénisation. On va avoir quelques décennies après la révolte des frères Maccabées. Le texte met en scène la volonté destructrice de Nabucodonosor, qui reste comme le roi de Babylone, qui a vaincu Jérusalem. Alors là, il est plutôt roi d'Assyrie, mais ce n'est pas grave. Et qui, comme le roi de Tyr, se prend pour un dieu, dit dans le texte, et décide de se soumettre la terre entière. En fait, ce n'est pas lui qui va agir, c'est son général Holoferne, qui porte lui plutôt un nom perse, et qui va mettre le siège devant la ville, au fond, qui résiste, et qui est la ville qui fait verrou pour entrer en Samarie. Donc, on est dans un texte tardif, la Samarie est là, très présente. La ville de Béthulie, ne la cherchez pas sur une carte, ni moderne, ni ancienne, Béthulie n'existe pas. Jamais personne n'a trouvé Béthulie. Elle est censément un piton rocheux qui fermerait la Samarie, il n'y en a pas, mais peu importe. La fiction veut ça. Or, à ce moment-là, ça c'est très important, Holoferne est prévenu par un de ses aides de camp, Achior, qu'il est en train d'attaquer un peuple qu'il risque de ne pas pouvoir vaincre. Pourquoi? Et on a une belle profession de foi d'Achior dans la théologie de la rétribution, parce que tant que ce peuple est fidèle à son Dieu, Dieu le protège et on ne peut pas le vaincre. Voilà. Et donc, Achior prévient Holoferne. Achior, évidemment, est considéré comme un traître, chassé, récupéré et arrêté de l'autre côté par les Juifs ennemis. À l'intérieur de la ville de Béthulie, qui est assiégée, ça va mal, évidemment, ça va mal, puisqu'on commence à mourir de faim et de soif, que le peuple se révolte et demande à se rendre. Et le chef du peuple, Osias, au fond, qui refuse de se rendre trop vite, finit par négocier et dire qu'il donne 5 jours à Dieu pour intervenir. Voilà, si Dieu n'intervient pas dans 5 jours, ben on se rend. C'est à ce moment-là que Judith apparaît. Alors Judith, une veuve très belle, très digne, etc., qui vient tenir un discours très remarquable. Et j'avoue que c'est moi, c'est ce discours de Judith qui m'a, au fond, le plus frappée dans cette histoire. Elle leur dit et dénonce violemment le fait qu'ils veulent mettre le Seigneur souverain à l'épreuve. Et ça fait directement allusion au récit dans l'Exode du peuple en Exode 17 qui, dans le désert, se plaint que Dieu ne le laisse mourir de faim et de soif, le peuple va à Massa, qui s'appelle justement l'épreuve, au lieu de l'épreuve, en grec c'est peirasmos, c'est le mot qu'on a ici, c'est l'épreuve, on met Dieu à l'épreuve, c'est-à-dire qu'on ne lui fait pas confiance. Voilà. Il faut qu'il intervienne vite, sinon on ne lui fera plus confiance. Et Judith se dresse contre cette façon de mettre Dieu à l'épreuve. Comment pouvez-vous sonder, vous qui n'êtes même pas capable de sonder le cœur humain, le Dieu qui a fait toutes choses? Dieu n'est pas comme un homme pour être menacé, ni pour être soumis à un arbitre. Le verbe grec, c'est pour être vérifié, pour que vous vérifiez les comptes de Dieu. Voilà. Et là, il se produit quelque chose qui est, à mon avis, assez remarquable. Au fond, mettre Dieu à l'épreuve, c'est refuser la confiance, pas croire. Or, Judith affirme qu'elle, elle fait confiance totale à son Dieu, au Dieu d'Israël, qui a toujours défendu les petits, les faibles et les opprimés, mais que, justement, parce qu'elle lui fait confiance, elle ne lui demande rien. Il est totalement libre et ses pensées sont au-dessus des pensées humaines. On n'a rien à lui demander, rien à exiger. Mais, voilà, elle pose ça et elle dit « Et du coup, moi, je vais agir et je vais agir seule. » Et elle ne veut pas dire ce qu'elle va faire. Elle dit à Ozias, ne me posez pas de questions, vous verrez ce que vous verrez. Et Judith s'en va vers le camp d'Holoferne. Après une prière à Dieu, parce qu'il y a quand même une prière à Dieu, donc voilà, elle se met sous sa protection sans rien lui demander, sauf de la soutenir peut-être. Et dans cette prière, Judith rappelle les moments où Dieu est intervenu dans l'histoire d'Israël et elle rappelle l'histoire de Dina en justifiant complètement le massacre opéré par les frères de Dina. Elle est elle-même descendante, dit le texte, de Siméon, l'un des fils de Jacob, donc elle s'inscrit dans cette descendance-là, ce qui est assez impressionnant. Et puis elle demande à Dieu de frapper par ses lèvres trompeuses, mais toujours c'est par moi, enfin, le général N. Elle arrive au camp. Elle est belle, elle est intelligente, elle est rusée, elle se fait admirer par tout le monde, elle garde son camp à soi, elle va prier dans le ravin, elle a amené son pique-nique ou sa nourriture, donc elle ne partage pas la nourriture impure de ses païens. Et quand elle paraît devant Holoferne, elle tient un discours incroyable d'ambiguïté, où on ne sait jamais, quand elle parle du Dieu dont elle se fait la servante, s'il s'agit de Nabucodonosor ou de Dieu d'Israël. Et elle prolonge et elle tord l'argument d'Achior en disant « Mais oui, mais si ce peuple désobéit à son Dieu, sous-entendu c'est ce qu'il est en train de faire en ne lui faisant pas confiance, c'est très facile de le vaincre. Et donc tu vas pouvoir le vaincre, puisque Dieu ne protège qu'un peuple que s'il reste fidèle. » Et on a une affirmation d'Holoferne qui est prêt, au fond, à honorer le dieu de Judith, mais on ne sait pas si ce dieu de Judith, c'est le dieu d'Israël ou si c'est Nabucodonosor. Donc on est dans un discours incroyablement malin et ambigu. Et lorsqu'elle revient pendant qu'Holoferne dort, évidemment, Judith coupe la tête d'Holoferne. Et puis, elle prend la tête et elle retourne triomphante dans le camp de Béthulie, dans le camp des Juifs, où elle est acclamée par tout le monde. Et l'histoire se termine, alors c'est assez épouvantable, mais quand même, avec une espèce de justification de Judith, dont personne n'a mis en cause le fait qu'elle avait sauvé tout le monde et qu'elle était honorée par tous, mais quand même, justification supplémentaire par le fait que Achior, qui est donc prisonnier maintenant dans le camp juif, vient voir Judith et au fond, célèbre le Dieu d'Israël. Au fond, le païen à cœur se convertit, grâce à Judith, au Dieu d'Israël, une espèce de triomphe supplémentaire de Judith qu'elle a obtenu par ce meurtre, cette série de ces paroles trompeuses, elle le dit elle-même, hein, ses lèvres trompeuses, donc cette série de mensonges, et ce meurtre d'Holoferne. Voilà. La morale y reconnaîtra ses petits. J'avance, parce qu'il nous faut avancer, et toujours des femmes qui vont ruser pour et parler pour sauver. Alors, on continue dans la série des femmes qui sauvent leur peuple sans être directement elles-mêmes des femmes qui sont des mères. J'ai évoqué rapidement tout à l'heure, et cela je n'en parlerai pas parce que je n'ai pas le temps, Rahab, la prostituée de Jéricho, qui ouvre les portes de la ville aux émissaires de Josué, puis à l'armée de groupe de Josué, protégeant, permettant aux Israélites d'entrer dans la ville et en même temps protégeant sa propre famille, c'est un peu ambigu. Bethsabée, bien sûr, qui est prise, donc violée quelque part par David et son mari est tué au combat, mais qui ensuite saura très bien pousser son propre fils au pouvoir en faisant tuer les autres fils de David. Donc des femmes ambiguës pour nous, chantées par la tradition juive. Et parmi elles, Esther. Alors là, je voudrais, évidemment, vous lirez le livre d'Esther, mais il y a plusieurs choses à dire. Je voudrais intituler non pas cette affaire-là Esther, mais Vasti et Esther, parce qu'il n'y a pas une femme, il y en a deux. Voilà, il y en a deux. D'abord, un petit mot sur le livre d'Esther, qui est un livre compliqué. Le livre d'Esther, dans la Tobe, il y a deux livres d'Esther, à deux endroits différents. Le livre ancien est un texte hébreu, court, qui fait partie dans la Bible hébraïque du canon, et notamment des cinq rouleaux, les cinq rouleaux, Kohelet, Cantique des Cantiques, Esther, Ruth et Lamentation. Voilà. Donc elle fait partie des cinq rouleaux. C'est un livre qui fonde la fête juive, encore très fêtée aujourd'hui, c'est très important cette fête dans le monde juif, la fête de Pourim, qui est le carnaval, qui est la fête du 14 et 15 du roi du mois d'Adar, le roi de, en gros février, la mi-février avant le mois de mars et avant la Pâque, le fête du carnaval, la fête du renversement des sorts et du destin. Dans ce livre d'Esther, on remarque, ou on ne remarque pas, mais enfin, il y a une absence complète du nom de Dieu. Il apparaît, dit-on, sous une phrase ambiguë du cousin d'Esther, Mardoché, qu'il a à la fois la pris sous son aile et l'envoie, au fond, elle risque de l'envoyer à la mort en lui disant d'aller supplier le roi. Si tu n'agis pas, il y aura soulagement et délivrance qui surgiront pour les Juifs d'un autre endroit. Et toi et ta famille, vous périrez. On considère que ce soulagement et cette délivrance qui doivent surgir d'un autre endroit, c'est une façon pour le livre d'Esther d'évoquer le nom de Dieu. Moi, je veux bien, c'est quand même léger. Alors, il y a un autre livre d'Esther, écrit évidemment en monde juif, qui reprend la trame et de nombreux passages du livre d'Esther, mais qui est un livre grec, qui non seulement traduit, mais gonfle énormément le livre d'Esther et qui la met au fond tout entière au service et à la défense du Dieu des Juifs. J'en dirai un mot à la fin. Pour le moment, nous suivons, et c'est cela que je vous propose d'étudier, le livre hébreu d'Esther avec ses deux femmes, Vasti et Esther. On est en monde perse. La situation est plutôt celle qu'ont vécu les Juifs sous les rois grecs. La fiction veut que ça va se situer chez les Perses avec le roi Xerxès. En latin, il apparaîtra sous le nom d'Assuérus, enfin un des grands rois perses du VIe siècle. Le fonctionnement habituel de la cour perse, c'est qu'il y a un harem et personne ne s'en inquiète. Et dans ce harem, il y aura un certain nombre de jeunes filles ramassées. D'ailleurs, le texte le raconte. Quand il y a besoin, on fait le tour des jeunes filles du pays et il y a des juives parmi elles qu'on met dans le harem. Personne ne s'en inquiète. Et l'une d'elles, si elle plaît davantage au roi, devient reine. Quand le texte, le récit s'ouvre, il y a déjà une reine, Vasti. Et le roi Xerxès offre un banquet aux grands de son pays, aux chefs de guerre, aux princes et à ses invités. Et au milieu du banquet, assez éméché probablement, il ordonne que sa femme Vasti, qui elle, d'un autre côté, a offert un banquet, mais à des femmes, soit présentée pour montrer à ses amis, à ses subordonnés, non seulement sa richesse, mais la beauté de sa femme. En gros, il va l'exhiber comme un de ses biens les plus beaux. Et Vasti refuse. Elle refuse net. Elle refuse net de venir. Or, à ce moment-là, on n'a pas de réaction très importante du roi Xerxès, mais on a une réaction assez étonnante des hommes qui l'entourent. Des hommes qui l'entourent, qui se mettent à dire, mais ça, c'est pas possible. C'est pas possible. Si elle n'est pas immédiatement punie, elle va pousser toutes les femmes du pays à mépriser leur mari. Et comment pourrons-nous à ce moment-là tenir nos femmes? C'est assez extraordinaire, parce que Vashti représente la femme qui a dit niette au roi et qui risque de déstabiliser tous les hommes du pays. Il faut donc la punir, disent les amis de, ou les subordonnés de Xerxès, pour que tout homme soit maître chez soi et puisse parler la langue de son peuple. Et donc Vashti va être destituée, chassée. Mais finalement, c'est elle qui a inversé d'abord les rôles, qui a inversé les places et qui a risqué de déstabiliser fortement le royaume de Xerxès. Alors, parmi les remplaçantes de Vashti, dans le harem, une jeune juive, Esther, est à nouveau, parce qu'elle est belle, intelligente, soumise et douce, choisie par le roi comme reine. Et on apprend qu'elle est sans parents, mais qu'elle a un cousin, tuteur, Mardoché, qui est bien vu à la cour et qui a déjà su dénoncer un complot contre Xerxès. Donc, Mardoché a de quoi bien se placer à la cour. Mais le favori du roi, Aman, veut que tout le monde s'écrase devant lui. Mardoché refuse de l'adorer, évidemment, et Aman décide d'exterminer non seulement Mardoché, mais son peuple. Et il obtient l'accord du roi. Et c'est là que commence le thème du renversement. Ce que se poursuit, même s'il est implicite avec l'histoire de Vashti, se poursuit et se prend vraiment forme le terme du renversement des sorts. Le texte dit « on fit tomber le destin », c'est-à-dire le sort, devant Aman. Et ce destin s'appelle Purim, d'un mot perse qui veut bien dire ça, le sort qui tombe et qui peut se renverser. Et ça fait allusion à une coutume perse où on considérait qu'au début de l'année, ou avant le début de l'année, le dernier mois de l'année qui était le mois de, en gros, février, hein, la fin du, avant le printemps, le dieu Marduk jetait les sorts, jetait au dé, jeter, tirer les sorts pour les sorts des hommes. C'est Marduk qui décidait du destin des hommes pour l'année. Marduk, on a le nom de Mardoché qui n'est pas très loin. Vous voyez bien qu'au fond, on va finalement non plus donner à Aman la possibilité de faire tomber les sorts, mais c'est Mardoché qui va récupérer l'affaire. Ça va se faire au long du texte. En attendant, Aman obtient l'accord du roi. Et on a là, pour la première fois, ébauché, finalement, la série des poncifs qui vont servir à travers l'histoire, au fond, à stigmatiser le peuple juif. Il y a un peuple particulier, dispersé, séparé au milieu des peuples. Leurs lois sont différentes. Ils n'exécutent pas les lois royales. Le roi ne doit pas les laisser vivre. Et ça, ça va être repris dans les siècles qui suivent, ça apparaîtra dans les œuvres de ceux qui défendent les Juifs, Philon et Flavius Joseph, mais vous trouvez quelque chose de ce genre dans la première aux Thessaloniciens, au chapitre 2, utilisé par Paul. Donc, alors, tableau d'Esther sur lequel je reviendrai tout à l'heure, parce que c'est vraiment l'Esther du texte hébreu et pas l'Esther du texte grec, on va avoir à partir de ce moment-là une série de renversements. D'abord, ce roi qui décide d'exterminer le peuple juif sans savoir que Mardoché et Esther en font partie, et Mardoché qui va envoyer Esther pour qu'elle comparaisse devant le roi. Normalement, on n'a pas le droit de comparaître devant le roi sous peine de mort, sauf si le roi vous tend son sceptre, ce que Xerxès fait lorsque Esther prend son courage à deux mains et ose comparaître devant lui. Donc Esther est écoutée et premier renversement du sort, Esther paraît devant le roi qui lui tend son sceptre et invite le roi à un banquet, invite aussi Aman, tandis que cet Aman, poussé d'ailleurs par sa famille, veut faire tomber Mardoché et élever un gibet le plus haut possible, lui disent les gens de sa famille, parce que plus le gibet de quelqu'un est haut, plus c'est injurieux. Un gibet pour Mardoché. Mais deuxième renversement, au banquet, au premier banquet, le roi demande à Aman comment peut-on récompenser quelqu'un qui a fait une action, une belle action. puisqu'il a appris que Mardoché avait dénoncé un complot contre lui. Aman, qui espère que c'est pour lui, va demander qu'on promène l'homme en question sur un cheval avec un manteau royal, dit-il, enfin qu'on lui rende des honneurs royaux que tout le peuple accable. Et premier renversement, c'est Mardoché qui va monter sur le cheval, c'est pas Aman. Et la famille d'Aman va le déclarer tombé, déchu. Le verbe tomber revient sans arrêt dans ce texte. Avec un troisième renversement, au deuxième banquet d'Esther, demandant son salut non pour elle, mais pour son peuple, Aman va être condamné par le roi. Le roi sort et Aman supplie Esther, il tombe sur le divan d'Esther et quand le roi revient, il est persuadé qu'Aman est en train d'essayer de violer sa femme, d'où punition supplémentaire. C'est Aman qui est pendu au gibet, préparé pour Mardoché. Donc, une histoire qui partait très mal, de renversements successifs, avec l'idée que le sort va tourner et que ce sort qui, pour le peuple juif, est toujours un sort désastreux, va être renversé et lui donner enfin la place qui lui est due et va au moins le sauver. Bon, Esther est celle qui sauve ici son peuple sans avoir rien demandé pour elle-même, puisqu'elle a même ces mots assez surprenants. S'il s'agissait simplement de moi et de mes jeunes filles qui m'entourent, qui sommes des esclaves, s'il s'agissait de cela, je ne te demanderais rien. Parce qu'évidemment, ça ne serait pas digne d'une demande au roi. Mais c'est de mon peuple qu'il s'agit. Donc, rien pour elle. C'est son peuple qu'elle veut sauver. À partir de là, le texte continue. Et alors, il continue de façon épouvantable. On va évidemment assister à l'institution de la fête de Pourim, avec Esther honorée. Mais on insiste surtout à un contre-programme. Le programme contre les Juifs n'a pas eu lieu. Il y en aura dans l'histoire. Tant et plus, et le livre d'Esther se vérifiera, hélas. Mais là, on a un vrai contre-programme assez atroce. Le 12e mois, Adar, le 13, ça va être la veille du jour où on fêtera Pourim, jour où les ennemis des Juifs espéraient dominer sur eux, il y eut un renversement de situation. Ce sont les Juifs qui dominèrent sur ceux qui les détestaient. Oui, mais on vous raconte qu'il y a eu 75 000 morts et que Esther fait exécuter les 10 fils d'Aman, qui lui avait quand même rien fait. Voilà, ce livre d'Esther qui laisse comme ça cette impression à la fois d'un salut pour les opprimés, d'un renversement enfin du sort de ceux qui sont toujours opprimés, mais d'un salut avec une vengeance qui est assez terrible. Alors, le livre d'Esther grec atténue beaucoup cet aspect de vengeance. Il a de nombreux suppléments, et notamment, bien connu à cause de la traduction un peu loin et magnifique de Racine, la grande prière d'Esther à Dieu, « Mon Seigneur, notre roi, tu es le seul, porte-moi secours, je vais jouer avec le danger. » Voilà. Racine en a fait « Ô mon souverain roi », etc. Et puis, il y a dans ce livre grec d'Esther quelque chose que j'ai remarqué en cherchant des représentations picturales, c'est que d'habitude, sauf le tableau du Tintoret, où Esther se courbe devant le roi, mais enfin où elle est elle-même royale, Esther est toujours en train de s'évanouir entre les bras de ses femmes lorsqu'elle se présente devant Xerxès. Tout le reste de l'iconographie vous montre une Esther défaillante. En fait, c'est dans le texte grec qu'elle s'évanouit sans arrêt d'Esther devant le roi, tant il est difficile de comparaître devant le roi. L'Esther du texte bref hébreu est beaucoup plus décidée et va jusqu'au bout et elle reste celle qui a osé pour sauver son peuple. Voilà, je termine, parce qu'il faut terminer, mais je vous demande encore un peu de patience, en abordant le dernier couple de femmes, Noémie et Ruth, le dernier livre, où on n'est plus dans la violence, mais quelque part quand même un peu dans la ruse, pour assurer à la fois la descendance et la survie du peuple. On ne remarque pas assez que ce livre est d'abord un livre où on lutte pour le pain et pour la vie. Alors, c'est un livre qui est situé au temps des juges, du coup la Septante le place, et les Bibles catholiques le placent juste après le livre des juges, avant Samuel, mais c'est un livre que le canon hébreu le place dans, parmi les cinq rouleaux, donc beaucoup plus loin, et qui a été écrit certainement à l'époque dont je parlais tout à l'heure, de Néhémie 13, 5e siècle, où on rejette les femmes étrangères. Et là, c'est une femme étrangère qui va au contraire assurer la descendance d'Israël. Alors, c'est un livre en quatre chapitres, et c'est assez simple, quatre actes, donc il faut vraiment le lire d'un bout à l'autre, c'est court, avec, au fond, d'abord, et encadrant le livre, non pas essentiellement la figure de Ruth, même si elle est l'héroïne, mais celle qui est au début et à la fin, c'est Noémie. Noémie, la belle-mère de Ruth, dont le nom signifie, le vocabulaire est très significatif dans Ruth, avec beaucoup de chaque acte est marqué par un vocabulaire particulier et les noms ont un sens. Noémie, son nom signifie ma consolation, ma douceur, mais partant avec son mari de Bethléem, la ville du pain, parce qu'il n'y a plus quoi manger, que c'est la famine, elle est émigrée économique avec son mari en Moab, le pays ennemi, mais qui visiblement l'a bien accueilli, où elle s'est installée avec son mari. Sont nés deux fils qui se marient avec des Moabites, des étrangères. Mais le mari meurt et les deux fils meurent. Et Noémie la consolée devient la consolation ou la douceur devient Noémie la mère. Elle dit « Je suis Mara ». Et comme le pain est revenu à Bethléem, elle décide de rentrer chez elle. En renvoyant ses belles-filles, de façon très juste, les accompagnant de la bénédiction du Seigneur qui leur sera fidèle. L'une d'elles rentre chez elle, l'autre, Ruth, décide de suivre Noémie. Et c'est une véritable profession au fond de foi que fait Ruth, qui est très belle, en disant à Noémie, « Où tu iras, j'irai. Où tu passeras la nuit, je la passerai. Ton peuple sera mon peuple. Ton Dieu sera mon Dieu, où tu mourras, je mourrai, et là je serai enterrée. » Et c'est elle, au fond, l'étrangère qui va incarner cette fidélité de Dieu que Noémie avait souhaitée à ses belles-filles. Acte 2, on arrive à Bethléem, le pays, on apprend que Noémie n'est pas sans appui. Elle introduit ici l'idée qu'elle a un parent fortuné, Boaz, qui pourrait jouer le rôle de racheteur. Racheteur, c'est une loi qu'on trouve dans le Lévitique, au chapitre 25. Lorsque un membre de la famille a des dettes ou tombe dans la misère ou dans l'esclavage ou dans le malheur, ou une femme veuve n'a plus de quoi se assurer sa vie, un des plus proches parents doit y venir en aide. Se présenter comme le Goël, le racheteur, celui qui, au fond, sauve la personne en grande difficulté, sinon en péril de mort. On apprend ça, mais Ruth en sait-elle quelque chose? On n'a pas l'impression, et elle décide, elle, d'aller glaner dans quelqu'un qui pourrait lui donner sa faveur. Et tout va se jouer, au fond, entre la faveur que Boaz donne à Ruth et la fidélité de Dieu que Ruth incarne. Puisque Ruth va travailler dans le champ de Boaz et Boaz la regarde avec reconnaissance, avec faveur, dit-il, et il reconnaît celle qui a choisi ce peuple et qui est venue, dit-il, se réfugier sous la protection, sous les ailes du Seigneur Dieu d'Israël, avec une expression très forte, sous les ailes du Dieu plein d'Israël. Et il va la combler de biens puisqu'elle rentre chez sa belle-mère en emportant 40 litres d'orge. Ça me paraît énorme, je ne sais pas ce que ça donne comme farine. Enfin, elles ont de quoi manger. À ce moment-là, il y a alors voilà, la moisson vue par Poussin, la moisson chez Boaz qui est effectivement abondante. On passe de la misère à l'abondance. À ce moment-là, ce début, cette fin de chapitre 2, ou d'acte 2 et début d'acte 3, on a quelque chose d'assez étrange parce que Noémie annonce à Ruth que ce Boaz est bien son racheteur. Et au fond, elle l'envoie vers Boaz pour non seulement pour que Boaz prenne soin d'elle et de Noémie, finalement assure leur survivance et leur vie pendant longtemps, mais derrière la tête de Noémie, il y a bien sûr, il faut qu'il lui donne un fils. Et elle n'a pas évidemment l'idée que Boaz va épouser Ruth. Elle veut simplement Ruth séduise Boaz et obtienne un fils, donc tu iras te parfumer, te coucher la nuit au pied de Boaz. Et Ruth, au fond, agit à sa façon, à elle, un peu différemment, puisqu'elle attend le réveil de Boaz et lui demande « Étends sur moi ton aile », et c'est en écho avec ce qu'avait dit Boaz, tu étais mise sous les ailes du Dieu d'Israël, et en même temps, c'est une formule qui est une demande de l'épouser. Donc, elle lui demande de la prendre en mariage. Les choses se font, Boaz reconnaît la fidélité de Ruth, la bénit, et en homme honnête, il évoque, et ça fait rebondir l'action, un autre racheteur. La question du racheteur est assez étrange, mais on voit bien que là, il y a deux choses qui viennent se nouer, qui a un peu posé question à ceux qui étudient de près les lois d'Israël. En tout cas, on voit bien que deux choses se nouent qui vont faire que le racheteur ne va pas accepter. C'est qu'il ne s'agit pas seulement d'un racheteur, il s'agit aussi d'épouser la femme. Il s'agit au fond de mettre en œuvre quelque chose qui ressemblerait davantage à la loi du Lévirat de Deutéronome 25. Et c'est ça que le racheteur ne veut pas. En même temps, ça met un lien très fort entre la femme et la terre, parce qu'il apparaît qu'il y a un champ qui appartenait à Noémie et que le racheteur pourrait reprendre aussi, mais tout cela au bénéfice d'un fils qui ne serait pas son fils, qui serait le fils du premier mari de Ruth. Donc, il y a un mélange des deux lois qui permet au racheteur le plus proche de Ruth de se retirer et à Boaz de racheter et d'épouser Ruth. C'est une happy end, enfin. Alors, c'est une happy end non seulement pour Ruth, mais pour Noémie, qui avait mis finalement la chose en marche, le manque d'enfants de Noémie avait mis la chose en marche, puisque le fils de Ruth est dans une espèce de petite cérémonie locale, adopté par Noémie, on lui met cet enfant sur les bras, et ce sont les amis de Noémie qui nomment l'enfant Obed. Donc, tout est bien qui finit bien pour Noémie, et pour Ruth, sauf que, à mon avis, elles vont quand même être oubliées, l'une et l'autre. Et si vous lisez la fin du livre, le livre se termine par une généalogie de l'enfant qui vient de naître, Obed, qui va être le grand-père de David, père de Jessé, lui-même père de David. On remonte dans sa généalogie assez haut, et cette généalogie ne va pas du tout passer par Noémie, parce qu'espérait Noémie et son mari Élimélec, elle passe par Boaz. Et on a une généalogie qui est une généalogie uniquement par les hommes. C'est-à-dire, très bien, Noémie et Ruth sont contentes, mais elles sont oubliées, qu'on se le dise. Ça passe par les hommes. Sauf que, quelques siècles plus tard, alors là vous avez le beau tableau aussi de Chagall, j'aime beaucoup la danse de Ruth et de Boaz, la danse nuptiale de Ruth et de Boaz. Mais quelques siècles plus tard, j'arrive et je termine là-dessus à l'évangile de Matthieu, qui lui, proposant une généalogie de Jésus, introduit pour la première fois les femmes. Et il introduit les femmes les plus irrégulières que nous avons rencontrées, en ajoutant Rahab et Bethsabée. Judas engendra Phares, Pérets et Zara de Tamar. Donc c'est Judas qui engendre de Tamar, sa belle-fille. Phares engendra Esrom, Salmon, alors je saute, hein. Salmon engendra Boaz de Rahab. Donc Boaz est le fils de Rahab, la prostituée de Jéricho. Boaz engendra Obed de Ruth. Jobed engendra Jessé. Jessé engendra le roi David. David engendra Salomon de la femme d'Uri. Bethsabée qui n'est pas nommée, et Matthieu en ajoute une cinquième d'irrégulière. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, qu'on appelle Christ. Voilà une relecture au début de l'Évangile. Je m'arrête là, j'ai trop duré. Vous retrouverez sur le site du CIF, vous y avez tous accès par les mots de passe donnés dans le mail qui vous a été envoyé par Hélène. Donc, vous retrouverez à la fois ce PowerPoint et le détail de ce que je vous ai raconté avec un peu plus de détails parce qu'il m'aurait fallu beaucoup plus de temps. Donc, le papier est un peu plus long. En attendant, si vous avez encore un peu de patience et des questions, je vous écoute.
J'ai une question, moi.
Oui.
Pour le tir. Il y a un personnage qui m'étonne toujours, c'est Déborah. Déborah est juge, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça?
C'est la seule. Oui.
C'est la seule femme juge, et
Non,
je vais
non, non, pas
comprendre,
du tout.
il y en a
Alors,
d'autres.
femme juge, oui, mais ce n'est pas la seule femme prophète. Elle est
D'accord,
juge
c'est la
et
seule femme
prophétesse.
juge. Et du coup, je me dis, est-ce que c'est une composition, une création totale, ou est-ce que c'est un personnage historique? C'est très étonnant quand même.
Alors, premièrement, personnage historique parmi les juges, Samson, Gédéon, tout ça. Moi,
Ouais, c'est dur.
je veux bien, mais il y en a un paquet dont on se demande si. Alors, il y a quelque chose, si vous voulez, derrière la légende, il y a toujours quelque chose.
Ouais.
La définition de la légende par opposition au mythe, c'est qu'il y a un ancrage historico-géographique, un sanctuaire, un nom, une tradition, un groupe humain, etc. Mais enfin, derrière les légendes des juges, Samson, Gédéon et les autres, c'est compliqué de retrouver quelque chose d'historique. En tout cas, les historiens vous disent que c'est le livre, probablement de l'Ancien Testament, où on retrouve le moins d'histoire. Voilà. Alors, c'est d'autant plus intéressant ce que vous dites, qu'il y a cette femme juge Déborah, et que probablement on a gardé, dont on a gardé non seulement le souvenir, mais le cantique. Vous aviez dans le livre de l'Exode, qui n'est pas plus ancien, hein, qui est probablement plus récent, mais quand même, le cantique de Myriam, qu'on chante encore, il a jeté à l'eau cheval et cavalier. Donc, on a le souvenir de ces femmes dont les chants accompagner le peuple. Déborah est dite juge, et visiblement, c'est elle qui, au fond, lève les troupes qu'il faut, qui encourage ces tribus qui étaient des groupes, hein, des petits groupes humains, des clans, à la guerre, et au contraire, condamne ceux qui ne s'en mêlent pas. Et en plus, on a des femmes prophétesses. Déborah est dite aussi prophète, et vous aurez dans le livre des rois, du deuxième livre des rois, au chapitre 22, la prophétesse Hulda qui fait trouver dans le temple de Jérusalem, enfin, reconnaît le livre, qu'on dira le livre du Deutéronome, le livre de la loi. Prophétesse venue du nord, venue du royaume de Samarie qui est tombée. Donc il y en a des femmes, hein, il y en a des femmes qui ont eu des rôles importants. Je dirais ce qui finalement est l'argument le plus sûr en leur faveur, c'est qu'elles sont restées dans un livre, quand même, ou dans des livres, qui quand même ne donnent pas un rôle tellement important aux femmes. Voilà. Et dans des histoires qui ne leur donnaient pas un rôle tellement important. Donc là, vous avez raison. Finalement, le meilleur argument historique, c'est qu'elles sont là.
Ok. Et c'est très étonnant parce que prophétesse, en définitive, c'est le pouvoir de Dieu. C'est Dieu qui parle. Mais
Oui.
juge, c'est le pouvoir de la personne. C'est un
Oui,
rôle
et
politique.
c'est un pouvoir pré-royal. Hein. Le
C'est
juge, c'est
ça,
le pouvoir de chef de guerre et donc de chef de clan. Hein.
ok, merci beaucoup.
Y a-t-il des questions? Réactions? Ah, il faut ouvrir le micro. Catherine, il faut ouvrir ton micro. Si tu veux dire quelque chose, je peux peut-être.
Ouais, son, voilà. Je disais, pourquoi a-t-on deux livres d'Esther? C'est bizarre qu'on ait gardé les deux.
Oui, parce que
Et
le
c'est vrai
texte.
qu'on a deux textes de la création aussi.
Alors, en fait, c'est bizarre qu'on ait gardé les deux. C'est peut-être une chance aussi. C'est peut-être une chance aussi parce que, visiblement, le livre grec d'Esther est une reprise adaptée à une nouvelle mentalité et largement gonflée du livre hébreu. Dans un certain nombre de cas, comme le livre de Tobie, par exemple, dont nous avons essentiellement le texte grec, on a découvert, souvent après, des restes ou des morceaux d'un texte hébreu. On a découvert du Siracide, que nous avons essentiellement en grec, et là je vous parle que des livres qui sont essentiellement connus en grec et que le canon juif n'a pas intégré. Donc je reviendrai après à Esther. On a donc découvert des textes hébreux dont on ne sait pas parfois si le texte grec en est la traduction ou s'ils sont eux la traduction en hébreu d'un texte grec. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc il y a des livres dont on a deux versions, mais en fait il y a une version dominante, la version grecque qui est restée. Et c'est difficile de retrouver des morceaux derrière, et souvent des morceaux très incomplets du texte hébreu. Dans le cas du livre d'Esther, on a ce fait que les deux versions sont restées, qu'elles sont très différentes et que le canon juif a intégré dans les cinq rouleaux, donc en très bonne place, le livre d'Esther, rejetant du même coup le livre grec, au moment où le judaïsme, alors on est certainement un siècle après Jésus, à la fin du premier siècle, où le judaïsme a constitué, ça a commencé depuis un moment, mais a constitué de plus en plus fermement son canon.
Son canon.
Par opposition, on le dit souvent, à tout ce qui est grec, mais pas seulement. Il y a eu d'autres raisons. Et donc, du coup, la Septante, qui à ce moment-là était en train d'être récupérée par les chrétiens, a gardé un autre livre d'Esther.
C'est ça. Oui, oui. Merci.
Samir, j'ai une question.
Oui.
Tu as dit que il y avait du temps d'Abraham deux promesses, une à Isaac,
oui,
et une à Ismaël,
oui.
Donc le peuple juif n'est pas le seul peuple élu.
Alors on parle pas en termes de peuple élu, hein, on parle, oui, en termes de promesses de Dieu. Il y en a beaucoup de promesses de Dieu, c'est comme des alliances. Des, oui, alliances, il y a l'alliance avec Noé, l'alliance avec Abraham, l'alliance avec Moïse. Voilà. Alliances et promesses vont souvent de pair. L'hébreu n'a pas de mot pour la promesse.
Oui.
Le berit veut dire à la fois promesse et alliance, aussi contrat et choses conclues. On dit que Dieu jure par lui-même, c'est comme ça qu'on a la promesse. Hein. Dieu jure et s'engage par lui-même. Donc en fait, il y en a plusieurs de promesses et d'alliances. Après, parler en termes de peuple élu, c'est plus tardif. Et c'est un moment où on a davantage, au fond, opposition entre Israël et d'autres peuples. Oui. Je pense qu'il y a eu des périodes d'opposition et des périodes d'ouverture. Et cette tension entre périodes de repli identitaire très fort, où on va parler de peuple élu, etc., et période d'ouverture, elle se voit dans les textes, mais comme les textes ne sont ni chronologiques ni unifiés, c'est à l'intérieur souvent d'un même livre ou d'un même groupe de livres qu'on a les deux en tension.
Oui.
Et qu'on a à la fois les Moabites qui sont l'ennemi absolu et la Ruth Moabite, okay, qui est celle qui sauve le peuple. Donc, ce qui est absolument remarquable, je trouve, à l'intérieur du livre de la Genèse, c'est cette arrivée tout de suite après la grande alliance quand même, parce qu'il y en a trois de suite, chapitre 12, chapitre 15, chapitre 17 et même chapitre 18, et promesse d'une descendance à Abraham, le même, un parallèle avec Agar. C'est quand même placé très tôt et, oui, placé de façon très fortement symétrique. Donc moi je ne dirais pas il y a plusieurs peuples élus, je dirais que même si Israël est le peuple premier de l'alliance, le peuple, oui, premier de la promesse, l'alliance et la promesse ne sont pas des exclusivités,
voilà, d'Israël.
Voilà, je le dirais comme ça, ce n'est, voilà, pas des exclusivités.
Mais ces dernières années,
oui,
même l'Église catholique, pour se racheter un peu de la Shoah, a mis très en avant l'élection du peuple juif. Et on se demande de quel sens est là cette élection. À l'origine, je pense que l'élection est plus une mission qu'une préférence.
Oui, mais comment dire, l'élection, c'est, tu as raison, une mission et une responsabilité.
Et oui.
Ça reste quand même le peuple qui transmet le Dieu unique, le peuple de la promesse. Alors, appelle-le élu ou pas élu, je ne sais pas. Je trouve que l'Église catholique, surtout, a besoin de revenir sur alors, ce qui a été une trahison terrible de toute la Bible et d'Israël, de dire assez vite, et dès la fin du IIe siècle, Militon de Sardes et la lettre à Barnabé, qu'il y avait un nouvel Israël ou un véritable Israël,
oui,
et de déplacer la totalité de l'élection d'Israël sur l'Église. Ça, il fallait demander pardon de ça. Parce que Paul dit bien, vous êtes élus. Hein, vous avez l'élection aux Thessaloniciens. Mais ce n'est pas une élection unique. Ce n'est pas une élection exclusive. Et la Bible le disait déjà avec Agar. L'élection n'est pas exclusive. La promesse n'est pas exclusive. Il y a une promesse première. Il y a une promesse, j'allais dire, majeure. Un premier-né, un enfant de la promesse, Isaac. Mais il n'y a pas exclusivité.
Vu mes origines égyptiennes, je me demande...
Tu es sensible à Agar.
quel sens a aujourd'hui, vu l'état du peuple d'État d'Israël, ce qu'on appelle l'élection?
Ah, écoute, ça, ce n'est pas moi qu'il faut me poser la question. C'est une question difficile du sionisme. Je crois qu'il faut tenir que... Quel que soit l'État d'Israël, le peuple juif reste pour nous. Le peuple, alors je ne sais pas s'il faut dire frère aîné, ça peut ne pas lui plaire, mais enfin celui qui nous a transmis le nom de Dieu et Jésus de Nazareth. Voilà,
tout à fait.
C'est tout.
C'est une avant-garde.
C'est déjà pas mal. C'est-à-dire que c'est indéfectiblement celui dont nous tenons tout ce à quoi nous croyons. Ça, on ne peut pas lui enlever.
Ah.
On peut massacrer tout le monde, on ne leur enlèvera pas ça.
Oui.
Là, après, je vois bien par quoi ça passe, les voies de Dieu. Quand même, Judith et Yaël, ce n'est pas terrible. Hein,
oui.
Quand même, on voit bien avec ces histoires que les voies de Dieu passent par des trucs épouvantables. Alors qu'on va après chanter, louer comme ces femmes qui nous ont sauvés. D'accord. Enfin, c'était quand même dans le sang et les larmes. Hein. Et la souffrance.
Merci.
C'est ça qu'on découvre finalement. C'est qu'au fond, ça passe à travers, franchement, la laideur et les horreurs de l'humanité la plus banale et la plus raffinée. Hein.
Merci.
Et ça passe. Voilà, ça a été transmis. Ça, c'est formidable. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou est-ce que vous en avez assez, peut-être ? Avait envie d'aller dîner. Du coup, je vous remercie de votre patience. Je vous rappelle que vous trouvez tout cela sur le site du CIF. Et puis, ceux qui vont travailler dans les modules bibliques, bon travail et bonne découverte. Voilà, bonne soirée à tous.
Bonne soirée.
Merci.
Merci beaucoup.
Bonsoir.
Bonsoir.
Bonsoir à tous.
Merci, bonsoir.
Voilà, je ferme.
Bonsoir, Catherine.
Au revoir tout le monde. Bonsoir.